BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, attention parce qu'on a des marchés qui recommencent à stresser un petit peu avant le week-end. Et à 48h bien sûr du premier tour des élections législatives et à l'issue qui plus est d'un mois de juin absolument épouvantable à la Bourse de Paris. Mais on va aller retrouver Étienne Brac qui est à Euronext dans un instant bien sûr. Sinon, justement puisqu'on parle des programmes législatifs, le Rassemblement National peut-il faire autant d'économies qu'il le dit sur les prestations versées aux étrangers et immigrés? Ça, c'est ce qu'il assure, sauf qu'on a une étude aujourd'hui qui nous dit que tout ça n'est pas aussi évident. On va vous raconter tout ça, bien sûr, dans un instant. Et puis, Joe Biden dans la passe après son débat raté face à Donald Trump la nuit dernière. Va-t-il devoir se retirer ou est-ce que plus les démocrates, ce sont les donateurs qui pourraient lui forcer la main? Ça aussi, on en parlera ce soir sur BFM Business. Voilà le programme, voilà les grands sujets qu'on va développer, bien sûr. Good Evening Business commence, on est ensemble jusqu'à 19h. Très bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc attention, oui, on a des marchés qui se tendent de nouveau à deux jours du premier tour des élections législatives. Bonsoir Étienne, vous êtes à Euronext. Ça s'est retendu aujourd'hui sur le 10 ans français et par ricochet sur le spread, le fameux écart de taux avec l'Allemagne, Étienne.
Oui, l'inquiétude est très clairement palpable ce soir, que ce soit sur les marchés actions, mais aussi sur l'obligataire. L'écart de taux entre la France et l'Allemagne, qui se situe habituellement entre 20 et 30 points de base, a dépassé aujourd'hui les 80 points de base pour la première fois depuis 2012 et la crise de la zone euro. Alors 84 points de base, c'est certes pas la panique, mais c'est quand même un niveau de stress important. Depuis hier, vous avez des taux qui repartent de l'avant. Le CAC 40 plonge car les derniers sondages mettent un Rassemblement National en large tête et puis surtout un Rassemblement National qui pourrait avoir une majorité absolue. Et ça, ça inquiète les investisseurs américains. Si vous regardez les différents médias, notamment anglo-saxons, eh bien, vous verrez Jordan Bardella, vous verrez des économistes qui sont inquiets par rapport à la situation de la France, par rapport à la confiance dans les prochaines semaines. Et après un léger rebond la semaine dernière, le CAC 40 repart déjà dans le rouge, moins 2% sur l'ensemble de la semaine, moins 6% sur l'ensemble du mois. C'est de loin la plus forte baisse mensuelle des grands marchés mondiaux, car la visibilité à court terme est tout simplement nul. Autre thermomètre intéressant qui est là un peu plus réconfortant, c'est l'euro-dollar qui, mine de rien, tient très bien au-delà des 1,07 sur l'ensemble du mois. Il est même légèrement positif.
Merci beaucoup Étienne. Retour de stress. Donc on vous retrouve dans un instant, quelques minutes, pour faire le point sur les valeurs qu'ont bougé significativement aujourd'hui à la Bourse de Paris. Justement, puisqu'on parle des programmes législatifs, on voulait évoquer un point. Je vous le disais, du programme du Rassemblement National. Vous savez que le RN annonce qu'il veut faire de grosses économies sur les dépenses dont bénéficient les étrangers et les immigrés. Sauf que une étude est sortie aujourd'hui, elle nous dit que ces économies ne seraient pas si conséquentes que ça en fin de compte. Frédéric Bianchi.
On le sait, le programme du Rassemblement National est très dispendieux en dépenses publiques. On se rappelle, 12 milliards d'euros au bas mot pour la baisse de la TVA sur l'énergie, des milliards d'euros d'exonération d'impôt sur le revenu, éventuellement une abrogation de la réforme des retraites qui serait, elles aussi, très coûteuse. On peut se demander comment le Rassemblement National compte financer tout ça. Alors Jordan Bardella reste un peu flou sur ses pistes d'économie, sauf sur certaines qui concernent les dépenses sociales pour les étrangers et les immigrés. On peut reprendre une de ses mesures phares qui est le RSA qui serait réservé aux étrangers qui justifieraient de 5 ans de travail sur le territoire. Là, c'est 4,5 milliards d'euros d'économies selon le RN, mais ce serait plutôt 2,5 milliards selon les calculs de l'Institut Montaigne, un think tank indépendant. Et encore, ce serait peut-être encore beaucoup moins, vraisemblablement entre 600 et 700 millions d'euros en tenant compte du principe en droit français qui est la non-rétroactivité des droits acquis. Autrement dit, seuls les nouveaux bénéficiaires du RSA serait concerné. On a aussi les prestations familiales qui seraient réservées aux Français. Là, le RN estime l'économie à 4 milliards d'euros, mais ce serait certainement beaucoup moins parce que le calcul du RN prend en compte les ressortissants étrangers communautaires. Or, les textes européens interdisent de faire une différence entre un Italien et un Français sur ces questions-là. Sans parler évidemment de nombreux obstacles juridiques avec des censures éventuelles du Conseil constitutionnel, comme on l'a vu en janvier dernier, ou encore de nombreux textes européens qui rendraient l'application de ces mesures impossible. Au total, mises bout à bout, ces mesures d'économie rapporteraient au maximum 7 milliards d'euros aux caisses de l'État, soit la moitié de la baisse de la TVA sur l'énergie.
Frédéric Bianchi, voilà, on reparlera de ces thèmes de campagne électorale qui ont été abordés ou qui n'ont pas été abordés justement. On parlera tout ça bien sûr avec nos experts tout à l'heure sur BFM Business. 18h04, on part aux États-Unis, à Atlanta, retrouver Antoine Hollard qui a suivi donc la nuit dernière le débat Trump-Biden. Bonsoir Antoine, débat qu'on a dit largement à l'avantage de Donald Trump. Est-ce qu'on en est vraiment pour autant, Antoine, à envisager un plan B du côté de Washington ?
Oui, parce que les démocrates sont en mode panique depuis hier soir. Joe Biden devait profiter de ce débat pour rassurer sur son âge, pour rassurer sur ses capacités physiques et mentales. C'est raté, sa prestation a été totalement catastrophique. Et aujourd'hui, en coulisses, beaucoup de démocrates disent qu'il est temps de débrancher Biden. Pour l'instant, ça reste du off, mais la pression va devenir de plus en plus forte pour qu'il jette l'éponge. Ce qu'on note aussi, c'est que ce matin, plusieurs gros donateurs s'expriment, eux, à haute voix. Il est urgent de trouver un plan B. Voilà ce qu'ils disent. Ça pourrait faire bouger les choses parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre dans une campagne américaine. Justement, Biden a rendez-vous avec des donateurs ce soir pour une soirée de levée de fonds à New York. On verra quel est l'accueil, quel est l'ambiance. En théorie, en tout cas, il est encore temps de trouver un autre candidat parce que la convention démocrate aura lieu en août seulement. D'ici là, tout reste encore possible. Le problème, c'est que Joe Biden s'accroche. Le président américain semble même dans le déni. Hier soir, il a même dit qu'il s'en était plutôt bien tiré. Donc, Biden s'accroche et il continue sa campagne comme si de rien n'était. Une campagne qui ressemble quand même de plus en plus au bateau du Titanic avec un capitaine qui fonce les yeux fermés tout droit vers la catastrophe.
Qui fonce à 4 mois et demi maintenant de cette élection du 5 novembre. Merci beaucoup Antoine Hollard, donc à Atlanta pour BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, on revient en France. Grosse surprise puisqu'on a appris ce matin qu'Arnaud Lagardère était redevenu patron de son groupe. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
On est surpris parce qu'il y a deux mois, on s'en souvient, la justice l'avait contraint à abandonner tous ces mandats exécutifs. Qu'est-ce qui s'est passé, Mathieu ?
Oui, un énième, un sacré rebondissement dans les aventures d'Arnaud Lagardère. Effectivement, il avait été mis en examen il y a presque deux mois pour notamment abus de biens sociaux, abus de pouvoir et non-dépôt de comptes pour ses sociétés personnelles dans lesquelles il avait puisé pour financer son train de vie, par ailleurs assez élevé. Donc la justice lui avait également infligé ce qu'on appelle une interdiction de gérer en conséquence de sa mise en examen, et ce qui l'a obligé à démissionner de tous ses mandats, d'abord celui du PDG du groupe Lagardère, un groupe qui porte son nom mais qui est aujourd'hui propriété du groupe Vivendi, de Vincent Bolloré, mais également de toutes ses sociétés holding au-dessus du groupe Lagardère. Il a fait appel de cette décision et il a obtenu, ce quoi peu de gens croyaient, une dérogation sur le groupe Lagardère qui n'est pas, on va dire, au centre des investigations du parquet national financier, qui regarde davantage ses sociétés personnelles, donc au-dessus du groupe Lagardère. Donc il redevient PDG du groupe Lagardère. Il y a deux mois, il avait dit d'ailleurs que sa démission, entre guillemets, était temporaire. Oui. Mais il reste en tout cas à l'écart de ses sociétés personnelles, puisque c'est elles qui sont concernées par sa mise en examen. Donc Arnaud Lagardère, effectivement, redevient PDG du groupe Lagardère. Son mandat qu'il avait, entre guillemets, abandonné il y a deux mois, normalement court jusqu'en 2027.
Ça a été voté à l'unanimité du conseil d'administration, apparemment, ce matin.
Évidemment.
Ce retour d'Arnaud Lagardère. Merci Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Entreprise toujours, grosse opération pour Nokia. Le Finlandais rachète l'américain Infinera, spécialiste des réseaux optiques américains, opération à 2,3 milliards d'euros. Et puis, bonne nouvelle, parce que ça y est, l'Europe vient d'autoriser la mise en vente du premier vaccin contre le chikungunya. C'est important parce que beaucoup d'experts estiment que le réchauffement climatique pourrait favoriser la prolifération du virus. Le vaccin arrive et en plus, il est français. C'est Valneva qui le produit. Hélène Cornet.
C'est un vrai succès pour le laboratoire qui a tout misé sur ce qu'on appelle les vaccins pour les voyageurs. Valneva estime le marché de la vaccination contre le chikungunya de l'ordre de 450 millions d'euros par an en 2032. Il y a toutes les zones à risque, les régions tropicales, mais de plus en plus de pays jusqu'ici épargnés tentent également de s'en protéger en raison du dérèglement climatique. Les autorités sanitaires aux États-Unis et au Canada ont déjà donné leur feu vert à la commercialisation du vaccin. C'est au tour de l'Union l'Union européenne, le vaccin développé par Valneva est le tout premier autorisé au niveau mondial pour prévenir cette maladie. À dose unique, réservé pour le moment aux adultes, il permet d'être protégé pendant 6 mois. Cette fois, la biotech a été plus rapide que les laboratoires concurrents, un vaccin qui va lui permettre de booster son chiffre d'affaires. Elle a d'ailleurs en mars dernier relevé ses prévisions de vente, désormais attendues pour 2024 entre 160 et 180 millions d'euros.
Hélène Cornet, tiens, tenez, ça sera sans doute une des curiosités des JO à Paris. Dans quelques semaines, vous savez peut-être que les quais vont être fermés à la circulation pendant une partie des Jeux. Eh bien, pendant ce temps, figurez-vous que des compagnies de croisière privées vont faire naviguer des bateaux-taxis entre le Louvre et la Tour Eiffel. Alexandra Paget est allée voir à quoi tout ça allait ressembler. Reportage.
Et c'est parti pour la première escale, Louvre, direction Tour Eiffel. La première expérience de bateau-taxi sur la Seine est en test à l'occasion des JO, mais elle a vocation à perdurer.
Une application de réservation instantanée, un peu comme celle des VTC, permet de réserver une course. Benjamin David dirige My Paris River, l'une des compagnies privées de croisière qui teste ce dispositif.
Le principe, tous les après-midi, entre 14h et 18h, mettre en relation d'éventuels passagers qui voudraient faire ce parcours et des bateaux.
L'idée, c'est de pérenniser ces trajets en bateau au-delà du tronçon aujourd'hui expérimenté et après les Jeux Olympiques. Un moyen pour les compagnies de rentabiliser leur flotte aux heures creuses de la journée et de faire exister une offre originale.
Il y a eu par le passé différentes expériences de taxi-bateau. Ça n'a jamais fonctionné parce que ce n'est pas vraiment viable économiquement. L'idée a été justement de s'appuyer sur des compagnies qui sont déjà existantes, qui ont déjà leur activité, et de leur proposer un complément de revenus en échange qu'elles proposent un parcours avec un tarif spécifique.
145 euros pour 20 minutes de navigation sur une embarcation d'habitude réservée aux demandes en mariage ou au team building d'entreprise. Un bateau peut embarquer jusqu'à 12 personnes.
Voilà, reportage donc sur les bords de Seine d'Alexandra Paget, 18h11. On va sur les marchés. Les marchés, on retrouve Étienne à Euronext. On rappelle donc la clôture à la Bourse de Paris, moins 0,68% ce soir pour l'indice parisien qui a perdu donc 6% sur le mois. Est-ce qu'il y a eu des mouvements significatifs sur les marchés aujourd'hui, Antoine ?
Étienne, en effet, vous avez L'Oréal qui perd un peu plus de 3% ce soir à la clôture avec son directeur général Nicolas Hieronymus qui revoit à la baisse son objectif de croissance pour le secteur de la cosmétique au niveau mondial. Ça ne sera finalement pas plus de 5%, ça sera entre 4,5% et 5%. Suite à cela, vous avez le titre qui décroche. Ça montre bien quand même que les résultats semestriels vont être très importants puisque souvenez-vous, déjà en début de semaine, c'était Airbus qui décrochait de 10% après avoir revu à la baisse ses objectifs. Désormais, c'est L'Oréal. Il y a quelques jours, c'était Stellantis qui était prudent lors de sa journée investisseur. L'Oréal qui redescend ce soir à 410 euros. Airbus également qui continue de reculer, moins 1,8% à 128,26 €. Le CAC 40 qui signe donc ce soir sa quatrième séance dans le rouge, moins 0,7% à 7479 points sur des plus bas de janvier et donc à un gros moins 6% sur l'ensemble ce mois de juin. À noter que l'euro dollar est donc au-delà des 1,07 quand le pétrole est sur des plus hauts de 2 mois avec là aussi des craintes d'une nouvelle tension au Moyen-Orient. 85 $ pour le Brent, 82 $ pour le WTI et donc le CAC 40 qui plie une nouvelle fois ce soir sous les 7500 points, 7479 points à la clôture.
Pardon mon cher Étienne, on va mettre ça sur le coup de la fin de saison évidemment. On se retrouve lundi pour nouvelles aventures pour une séance qui s'annonce haute en couleur. Ça sera lundi, ça sera peut-être un autre monde d'ici là bien sûr. Très bon week-end, 18h12, on vient avec nos experts dans un instant. On va reparler de ces marchés justement qui recommencent à s'emballer juste avant le premier tour des élections législatives dimanche. On parlera de ces propositions de campagne. Qu'est-ce que nos experts en ont retenu? Est-ce qu'il y a des sujets de frustration pour eux? Puis on dira un mot du duel Trump-Biden. Ça n'a pas été fort pour Joe Biden la nuit dernière. Est-ce que ce sont, on le disait tout à l'heure avec Antoine Hollard, les investisseurs, les fonds de soutien qui pourraient le pousser à finalement se retirer? On voit tout ça jusqu'à 19h, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, il est 18h15 sur BFM Business. Les experts sont là pour refaire l'actu, bien sûr, jusqu'à 19h. Xavier Patrolin est avec nous. Xavier, bonsoir.
Bonsoir, Guillaume.
Bienvenue, président d'Albatros Capital. Pascal Delima est avec nous.
Bonsoir, Guillaume.
Bonsoir, Pascal, chef économiste chez CGI Business Consulting. Samuel Botton, expert bonsoir. En communication. Samuel, bonsoir. Messieurs, comme tous les soirs, Quasiment. Bah, vous savez, on fait ça maintenant depuis 15 jours. On commence avec notre petite météo marine à nous. Voilà, notre petit point météo. Le 10 ans français. Et alors, on le regarde et on s'inquiète parce que jusqu'il y a quelques jours, on était scotché aux alentours des 3,15. Bon, et puis ce soir, on est remonté. Là, vous voyez, 3,24 ce soir sur le 10 ans. On est monté jusqu'à 3,30. Et on a un taux allemand, vous savez, un Bund, un différentiel avec le Bund allemand, le fameux spread, qui est remonté à 85 points, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 12 ans. Bon, on faisait le point avec Étienne Braque qui nous disait, bah voilà, il se trouve que ceci explique peut-être cela. On a eu deux sondages qui donnaient une majorité absolue au Rassemblement national. Donc on sent là que petit retour de stress avant le week-end, avant le premier tour sur les marchés, Xavier. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, ce soir, finalement?
Je vais redire ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est une situation de normalisation. On était un passager clandestin de la zone euro depuis très longtemps. On avait un statut très singulier au sein de la zone euro parce qu'on est un pays fondateur. Au fond, il n'y a pas d'Europe sans le fameux couple franco-allemand, mais surtout sans l'architecture française. Et donc, ça nous faisait bénéficier de la garantie de la zone euro. Bah, évidemment, l'incertitude économique nous fait regarder de plus près par les investisseurs étrangers la situation budgétaire et les facteurs d'incertitude. Donc au fond, on avait un différentiel de taux avec l'Allemagne qui se situait entre 20 et 40 points de base. Mais globalement,
pour la dissolution, on est à 48,50, je trouve, un peu de choses.
Voilà. Mais globalement, on devait se situer, vu nos performances budgétaires, on devait se situer entre le spread de l'Espagne et le spread de l'Italie. Le spread de l'Espagne se situe aux alentours de 90 points de base, donc on est en train de le rejoindre. Et le spread de l'Italie, par rapport à l'Allemagne, se situe aux alentours de 150-160 points de base. Mais au fond, il n'y a rien de grave.
Pourquoi? Pour l'instant.
Oui, non, mais qu'est-ce qui est important? Alors, le spread mesure bien quelque chose. Donc, il faut l'intégrer. Ce qui est important, c'est pas le spread en tant que tel. Parce qu'au fond, les taux allemands seraient à zéro et le spread serait à 90 points de base. On aurait des conditions de financement à moins d'1%. Ça serait pas gênant. Ouais. Ce qui est important, c'est le taux auquel on se finance par rapport à notre croissance potentielle. Le taux auquel on se finance actuellement sur le 10 ans français, on pourrait se financer sur le 10 ans français, c'est 3,20, 3,25. La croissance nominale française potentielle, elle se situe aux autour de 3. Donc ça veut dire qu'on est ric-rac. Ça veut dire que pour l'instant, on n'est pas dans une situation d'emballement du ratio dette sur PIB, mais on est borderline. On a été sur les dernières années en situation extraordinaire puisqu'on avait une croissance potentielle nominale à 3 et des conditions de financement à 0, à 1, à 2. Donc c'était miraculeux. D'où probablement le déficit budgétaire et le fait que c'était le cadet des soucis de nos dirigeants. Bon, maintenant on est rentré dans une situation de contrainte. Là où ça va devenir le fameux worst case, le scénario critique, c'est le spread, c'est une chose. C'est quand on verra, si on le voit, c'est quand on verra le taux se rapprocher de 3,5, 4. À ce moment-là, on a des conditions de financement qui sont 150 points, 100 points supérieurs à notre croissance nominale. Et là, à ce moment-là, on rentre dans une mécanique, pour peu que ça dure, on rentre dans une mécanique d'emballement. Oui. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les dirigeants qui sont en place, ils doivent à tout prix adresser la restructuration budgétaire et en tout cas supprimer, si tant est que ça soit possible, le déficit primaire. Parce qu'à ce moment-là, ça a une charge financière qui vient.
Sauf que c'est 3,54, on peut aller les chercher très très vite, sauf que le nouveau gouvernement sera pas en place ni lundi prochain évidemment, ni forcément le 8 au matin, parce que c'est ça le souci.
Oui, bien sûr, et puis il y a de très fortes interrogations sur la partie de politique économique, tout simplement, parce qu'on a eu assez peu de choses dans le cadre de cette campagne sur la politique de l'offre, sur la compétitivité des entreprises, sur les entreprises en elles-mêmes, et donc les investisseurs regardent beaucoup aussi ce que propose les différents partis. Et effectivement, on voit bien un maillon faible qui est cette fameuse politique de l'offre que nous devons, dans le cadre d'une transition économique, accomplir, terminer. Pour avoir le plus de croissance économique, il faut aller jusqu'au bout. On peut pas avoir commencé quelque chose depuis 20-30 ans et le terminer comme ça, de façon, ça crée beaucoup d'incertitudes. Et puis deuxièmement, l'aspect purement macroéconomique, évidemment que la trajectoire budgétaire de la France, même si nous nous situons encore sur des notes élevées, inquiète, parce qu'effectivement il y a cette relation des taux d'intérêt réel vis-à-vis du taux de croissance, avec aussi le capital restant dû rapporté aux recettes réelles. Cette trajectoire est un petit peu inquiétante, même si nous sommes sur encore des niveaux élevés, on va dire, de confiance relative des investisseurs. Voilà, il n'y a pas panique à bord.
80 points de base, voilà, c'est pas la panique.
Tout à fait.
Et puis là, ça, 3,2%, comme le disait effectivement Xavier, pour l'instant, ça reste soutenable. Comment est-ce que vous regardez ça, Samuel, vous?
Je me contredirais si je vous disais que la France est dans la même situation que la Grèce, puisque j'ai toujours dit aujourd'hui, on a une situation économique qui, dans les faits et dans nos forces, est suffisamment bonne pour pouvoir tenir face aux agences de notation au moment venu. et à de légères dégradations. Il y a autre chose qui tend à me rassurer, alors là pour le coup c'est le revers de la médaille, c'est de me dire que peu importe le gouvernement, finalement il va devoir aller négocier avec Bruxelles et les agences de notation. Et ça, vous pouvez me le tourner dans tous les sens, à moins d'une rupture profonde, voire d'une sortie de l'Europe dans le cas de l'Union européenne. Ce n'est pas possible, donc c'est pour ça que j'ai tendance à être rassuré, même dans le cas d'une majorité absolue du Rassemblement national, ce qui me semble quand même assez compliqué. Je pense qu'on sera plutôt sur une répartition assez équivalente à quelques égards. Ouais. Et puis après, bon, bah, y a la question effectivement du nouveau Front populaire ou du centre avec ce gouvernement d'experts. Mais aujourd'hui, sur les deux, trois prochaines années, on a toutes les cartes en main pour tenir, ne pas se retrouver dans cette situation. C'est après, si ça venait à se dégrader de manière beaucoup plus rude d'un point de vue politique...
Ouais.
Là, il faudra commencer à au moins se poser la question.
Je rebondis sur ce que disait Samuel. De plus en plus d'experts, d'économistes font ressurgir le risque du scénario à la grecque. Vous y croyez? Vous l'achetez ou pas, cet éventuel scénario? Vous dites non, pas du tout. La France n'est pas la Grèce, voilà, pour des raisons innommables.
Ça a strictement rien à voir. C'est un discours anxiogène auprès de nos compatriotes.
On est dans une... Exploité par les y compris par les politiques.
Oui, mais ça honore pas ceux qui se livrent à de telles assimilations.
Bruno Le Maire encore la semaine dernière, pardon.
Oui, mais ça l'honore pas. Quand bien même il est Premier ministre, ministre des Finances depuis 7 ans. Quelle était la situation? Je vais faire très vite. La situation de la Grèce en 2011-2012. La Grèce avait un déficit budgétaire de déficit primaire de 6 à 7% du PIB, une charge financière de 5 à 6 points. Donc ça veut dire que le déficit budgétaire était de pas loin de 14%. Le déficit de la balance des paiements était pas loin de 12% du PIB, et le ratio dette sur PIB était à
170-180. Voilà. Oui,
donc ça n'a strictement rien à voir. Nous, on a un déficit primaire qui est très excessif, 3,5. On a une charge financière qui est à 1,6, 1,7. Donc globalement, on caracole sur un déficit budgétaire au supérieur à 5, et probablement de manière très structurelle. On a un ratio dette sur PIB aux alentours de 110. Mais surtout, on a en termes de déficit de la balance des paiements, c'est très léger. C'est moins d'un demi-point de PIB. On a un déficit commercial élevé, c'est vrai, mais un déficit de la balance des paiements qui est très léger. Donc on n'est pas dans une situation catastrophique. Par contre, si on a un programme LFI qui se met en place, nouveau Front populaire, mais LFI, ancienne formule, Jean-Luc Mélenchon 2022, s'il se mettait en place, là, tu peux être sûr que des fuites de capitaux, tu en aurais, un non-financement de l'étranger, tu en aurais, et à ce moment-là, tu aurais un déficit de la balance des paiements qui s'aggraverait, un ratio, une charge de la dette qui augmenterait, et là, sans rentrer dans la situation de la Grèce, on serait plus proche de l'Italie, c'est-à-dire une situation où ça commence à devenir difficile, et surtout où la BCE n'interviendra pas. Parce que je l'avais dit la semaine dernière et je le redis encore aujourd'hui, pour que la BCE soit la garantie ultime, il faut impérativement qu'il y ait un accord politique entre la nouvelle équipe, le nouvel exécutif et la chancellerie allemande, et l'Allemagne.
Oui.
S'il y a cet accord politique, la BCE pourra et a les instruments pour intervenir. Mais je rappelle que les instruments pour intervenir de la BCE sont des instruments à base d'abandon de souveraineté.
Oui.
Parce que c'est des instruments à conditionnalité.
On n'y arriverait pas.
Et c'est des conditionnalités à volet économique. Donc t'imagines bien qu'avec une majorité Rassemblement National, ça serait compliqué.
On n'y arrivera pas, Pascal.
Ouais, sur la question de la comparaison avec la Grèce, qui était la question initiale, effectivement, la France, 7e puissance économique au monde.
Pour ça, j'étais surpris.
La Grèce,
Bruno Le Maire
57e.
Faire cette comparaison la semaine dernière, Bruno Le Maire fait ce
voilà, 57e, tout à fait. La France n'a jamais été exclue, entre guillemets, des marchés financiers, n'a jamais subi de troïka et de plans d'austérité à coup, effectivement, de subventions européennes. Bon, tout ça, et la France a fait également des réformes structurelles importantes sur le marché du travail, sur l'assurance, sur les retraites. Enfin, les efforts sont là, si vous voulez, en termes de réformes structurelles. Le marché du travail n'est pas le même. Je précise que la France est une économie extrêmement diversifiée, bien évidemment, avec des fleurons mondiaux dans un tas de secteurs, et que la Grèce dépend exclusivement du tourisme et du maritime. Donc, on n'est pas du tout dans des comparaisons qui sont possible.
On peut s'amuser à le faire économiquement. On s'est levé l'impôt, on s'est récolté l'impôt en France.
Donc il y a beaucoup de choses, c'est presque un sujet de thèse qui peut durer, mais cette comparaison-là me paraît un petit peu excessive. Maintenant, ce qui est vrai, c'est la trajectoire budgétaire. Et là, il faut qu'il y ait une attention. On peut passer de 17,5 à 15 en 2 ans, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là, à mon avis, que l'attention doit être portée.
Vous entendez, puisqu'on parlait d'Europe, vous savez qu'Emmanuel Macron est toujours à Bruxelles pour un sommet européen. Est-ce que vous imaginez un petit peu toutes les questions qu'il a dû avoir de la part de ses partenaires depuis 24 heures? C'est-à-dire qu'on a dû poser des questions sur ce qui pourrait se passer le 8 au matin, puis les jours d'après. Il a dû se faire le porte-voix, j'imagine,
des autres partis qui ont des propositions qui inquiètent jusqu'à Bruxelles. Voilà, vous imaginez dans quelle situation ils se trouvent là-bas à Bruxelles.
On
doit regarder un peu de travers quand même, avec un peu de...
Je pense qu'au mieux on le regarde avec curiosité et au pire on le regarde avec beaucoup d'humour.
Je sais pas. Là, c'est pas la Grèce, c'est la France. Hein, donc
c'est la France, c'est ça le problème. Mais c'est ce qu'on disait aussi la semaine dernière, c'est-à-dire aujourd'hui, faut accepter que sur le laps de temps de 3 semaines qui s'est écoulé, la France n'a pas voix au chapitre pour le moment du fait d'une instabilité. Alors Emmanuel Macron essaye quand même de continuer à jouer le jeu du maître des horloges et de prendre de court, ce qu'il essaye déjà de faire par rapport à Jordan Bardella dans le cas où c'est potentiellement Premier ministre.
Oui, on l'a vu.
Il a annoncé qu'il souhaitait maintenir Thierry Breton comme commissaire européen.
Il a pris les devants, ouais.
Prendre les devants. Il y a plusieurs questions qui l'attendent et qui, elles, pour le coup, vont être très sensibles en fonction du prochain gouvernement qui nous attend. C'est sur le volet international et plus spécifiquement sur l'Ukraine. Et puis après, on est dans l'inconnu aujourd'hui, bien malin, celui qui sera capable de dire quelle sera la place de la France dans l'Europe sur les 3 prochaines années. Il pourra le dire le 8 juillet, quand on sera fixé sur la représentation de notre Assemblée, sur la composition de notre gouvernement. On a réussi... tour de force de cette semaine et de la semaine dernière a quand même négocié les top jobs en Europe. Oui. Ça prouve qu'on a quand même encore quelques ficelles bien cachées et efficaces. Et puis après, aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer la France forte et dominante comme elle l'a été jusqu'à aujourd'hui à échelle européenne et dans les processus de décision. Ça va être très compliqué pour le président. Aujourd'hui, il est vu comme seul, il est isolé. En France, il est inaudible et en Europe, il est isolé.
Ça va être compliqué pour lui depuis 24 heures à Bruxelles, tant les sujets potentiels de friction avec la Commission européenne, avec nos voisins, sont élevés. Enfin, il y a beaucoup de choses sur la table à l'occasion de cette campagne. On l'a vu dans les propositions, là. Donc, la France risque le déclassement, là.
Absolument. Tu as dit le mot, oui, je pense que c'est une hibernation que je ne sais pas la mesurer, mais qui risque d'être très longue. Oui, c'est un geste qui est totalement incompris par les autres chancelleries européennes. Déjà, les autres chancelleries européennes ont du mal à comprendre la scène politique française. Mais là, une décision comme celle-là, au soir des élections européennes, a déstabilisé, au-delà du landerneau français, a déstabilisé absolument tout le monde. Et je pense que toutes les chancelleries européennes s'interrogent, je vais dire employer un terme un peu péjoratif, mais sur la santé mentale de notre président. Parce que non seulement ça a déstabilisé les institutions, la scène française, mais ça déstabilise la scène européenne. Enfin, souvenons-nous quand même qu'il y a depuis 2 ans des chars russes qui sont à 2000 km de Paris. On est dans une situation de conflictualité avec la Grande Russie. Et tu imagines bien qu'il y a un acteur qui a dû regarder ça avec délectation. Il s'appelait Vladimir Poutine. Et donc, les partenaires européens n'ont pas été prévenus, comme d'ailleurs les dirigeants français n'ont pas été prévenus de la décision solitaire d'Emmanuel Macron. Et donc, tout le monde s'est senti fragilisé. Et là, il y a une interrogation sur le système politique français, parce que tu auras noté que partout, les autres systèmes politiques européens sont des régimes parlementaires qui absorbent la montée des nationalistes sans problème, avec des mécanismes de coalition. Nous, reconnaissons, alors peut-être que la Ve République va accoucher d'un mécanisme de coalition, peut-être qu'il va y avoir un Front Républicain 2.0 qui va naître dimanche soir à 21h01, mais on n'en sait rien. Et donc là, tout est ouvert. Du côté de Berlin, c'est l'inquiétude. Les dirigeants allemands disent que c'est la crise la plus grave que rencontrent les relations franco-allemandes depuis la Seconde Guerre mondiale.
Vous avez Scholz sortir de sa réserve il y a une semaine, d'ailleurs.
Et quand tu rencontres le chancelier Scholz, la menace pour le chancelier Scholz, c'est évidemment pas LFI, c'est évidemment pas le nouveau Front Populaire. La menace pour le chancelier Scholz, c'est le Rassemblement National. Oui. Quelles étaient, les déclarations qui étaient encore tenues il y a quelques heures ou quelques jours, y compris de l'actuel des dirigeants de l'actuelle majorité présidentielle, il tapait beaucoup plus dur sur LFI et le nouveau Front Populaire que sur le Rassemblement National. Ça, c'est incompréhensible dans les autres capitales européennes. Donc, on rentre dans une phase d'hibernation et je pense qu'il s'est fait remonter les bretelles très sévèrement par nos partenaires européens.
On n'était pas là pour voir, mais probablement. Non, probablement. Hibernation française ou d'un mot européenne au sens large, Pascal, pour vous. C'est aussi la question.
Si on regarde l'histoire économique, c'est
toute la construction européenne qui s'arrête.
La construction européenne qui s'arrête. Moi, je me souviens
souviens de longs débats qu'on avait sur la dette européenne, sur les eurobonds, sur la position de l'Allemagne vis-à-vis des déficits budgétaires avec cette rigueur allemande. Et puis, d'un autre côté, les pays latins un peu plus laxistes. Il y avait quelque part, je me souviens, un débat très sain finalement dans une volonté d'aller vers plus d'intégration au niveau politique. On parlait même de fédéralisme. Là, on est en train, d'aller dans l'autre sens, là, si je puis me permettre. Ouais. Et pour preuve, c'est que pendant ces campagnes des législatives, eh bien, en plus des politiques d'offres, en plus des politiques pro-business, des entreprises, des multinationales dont on a peu parlé, l'Europe est également perdante. On a assez peu parlé de l'Europe. Et pour cause, on a deux partis qui sont sceptiques, un très sceptique, un autre qui est plutôt ambigu, je trouve. Ouais. Donc je pense qu'effectivement, c'est la grande perdante, l'Europe.
Eh bien, on a parlé de l'Europe, on va parler des programmes dans un instant. 18h31 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h36, on est reparti, les experts. Xavier Patrolin est avec nous, Pascal Delima, Samuel Botton. Bah, on va reparler un petit mot des programmes électoraux. On va pas avoir le temps, évidemment, de rappeler les grandes lignes parti par parti. Non, j'avais juste une question à vous poser. Voilà, on a eu une campagne express, hein, effectivement, très courte. Je voulais pas vous demander ce que vous avez vu mis en évidence qui vous a intéressé. Je voulais en fait vous demander ce qui vous laisse des frustrations. Voilà, quels sont les thèmes pour vous qui n'ont pas été abordés du tout ou pas suffisamment? Moi, j'avais noté quoi? L'emploi. On en parlait ici, on n'a pas parlé de lutte contre le chômage, on n'a pas parlé de logement, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, on n'a pas parlé d'écologie. Si vous avez une frustration à émettre ce soir, Samuel, qu'est-ce que vous diriez, vous?
Alors, l'emploi, c'était effectivement mon premier point. J'ai moins de frustration sur l'intelligence artificielle parce que pour le coup, on est dans une campagne éclair où il faut choisir deux, trois thèmes max, s'y tenir et marteler. En l'occurrence, le premier, c'était le pouvoir d'achat. Le deuxième, je le déplore, c'était les questions de sécurité et d'immigration qui ont été portées à outrance par le RN et depuis les européennes et même avant ça. Et puis après, il y a eu pour moi le grand flou artistique qu'on a constaté sur le débat de TF1 autour de la réforme des retraites, où finalement on s'est aperçu que aucun ne revenait vraiment sur ce qui avait été fait au préalable en 2023. Donc c'est ça qui m'a laissé un petit bout d'inachevé. Sur le reste, j'ai vu le programme du Rassemblement National fondre comme neige au soleil au gré des variantes médiatiques. Aujourd'hui, alors c'est ce que je disais déjà il y a 2-3 semaines, je ne vois pas le RN être plus qu'un passe-plat de la politique d'Emmanuel Macron. On y est. C'est exactement la même chose. On sent pas de soulèvement, on sent pas d'initiative novatrice. Il n'y a pas de tout ça. Il y a la question du nouveau Front Populaire. Le seul reproche que je peux leur faire, c'est d'avoir été beaucoup trop ambitieux sur ce programme. Là où j'ai la conviction qu'il fallait prendre 15 grands thèmes gérables sur 2 ans, s'y tenir et préparer la suite. Il va forcément y avoir des déceptions à l'arrivée s'ils arrivaient à avoir au moins une majorité relative. Il y a Renaissance qui a gardé le cap qu'elle avait fixé, le discours de responsabilité.
Il était d'une discrétion quand même dans cette campagne, il faut le reconnaître.
Enfin, Renaissance ?
Ouais.
Bah, j'ai trouvé quand même que Gabriel Attal, après le mais parce qu'ils ne peuvent pas, ça voudrait dire se désolidariser et se dédouaner de toute la politique qui a été menée avant. Il faut garder ce cap et dire on a bien fait, on a été bon et on va continuer. Et après, on sort autant que possible le carnet de chèques sur, je crois que c'est 10 ou 12 promesses à peu près qui ont été faites, ce qui me semble la bonne stratégie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour Renaissance, on est dans un cas où ils sont plus audibles. L'objectif pour la population française, de ce qu'on en voit, c'est de les dégager. Il y a eu, et enfin, le cas des Républicains qui, eux, pour le coup, ont réellement été invisibles.
On s'est posé en fait la question à 3 jours de savoir s'il y avait un programme chez les Républicains, mais alors c'est complètement
non,
là.
Non, je ne l'ai pas vu. J'ai écouté Xavier Bertrand attentivement hier. Je l'ai vu dans du rebond. Mais pas plus.
Pascal, votre grande frustration après cette campagne express, est-ce qu'il y a un thème, deux thèmes, je ne sais pas, peut-être que vous auriez voulu voir évoqué plus largement finalement
Certainement la question des politiques d'offres pro-business et des politiques également d'intégration des systèmes économiques et financiers en Europe. Quand on fait un constat sur l'évolution économique de l'Europe aujourd'hui, on voit très bien ce qui se passe, à savoir un problème peut-être certes d'inflation, on a bien compris, encore que l'inflation, taux de pauvreté, taux de remploi n'est pas pire que l'Allemagne ni les moyennes de l'Union européenne, mais enfin, il y a quand même une question autour du pouvoir d'achat qui aurait pu être soulevée et dont les solutions peuvent partir de l'économie de l'offre et puis de la compétitivité et des taux d'emploi aussi. Par ailleurs, on a une société aujourd'hui qui bascule d'un mode un peu en mode montgolfière vers un style en mode sablier, avec de la précarité technologique pour les classes moyennes, avec beaucoup de top jobs très très fortement rémunérés en haut et une pléthore de slasheurs, de multi-activités à la base, donc on, surtout auprès des jeunes, et donc on n'a pas, à mon avis, assez parlé des qualifications, des emplois de demain, des métiers de demain. Qu'est-ce qu'on fait avec le développement du slasherisme? Qu'est-ce qu'on fait pour protéger les jeunes? Comment on les accompagne? Et surtout dans la transition de cette économie de l'offre, oui, non pas dans la rupture, comme le propose un certain nombre de partis, dans cette transition d'aller vers un modèle un peu plus pro-business finalement, qui soit bénéfique pour tous. Et c'est possible. L'équité, la social-démocratie est compatible avec les politiques d'offre. C'est ce que j'arrête pas de dire depuis des années.
On est d'accord avec vous, sauf que comme le disait effectivement Samuel, dans une campagne éclair, le temps politique est ainsi fait. Oui. Malheureusement, vous pouvez pas évoquer ces sujets. Xavier, qu'est-ce qui vous frustre à l'issue de cette campagne express finalement des législatives?
L'impression confuse que peu de gens ont travaillé.
Est-ce qu'ils ont eu le temps?
Non, mais justement...
Il y aura une commission pour ça.
Justement, ils n'avaient pas beaucoup de... En reconnaissant qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps, mais s'ils avaient travaillé avant, il y aurait eu...
Le Rassemblement National nous explique qu'ils sont prêts depuis longtemps, qu'ils travaillent depuis longtemps à la relève quand même, malgré tout.
Moi, je note que du côté du Rassemblement National ou du côté du Nouveau Front Populaire, on a ressorti les programmes économiques des précédentes présidentielles.
Je n'ai pas osé le dire.
On les a adaptés avec des cautions d'économistes, peu importe. Du côté du Rassemblement National, on les cherche toujours. Et du côté du Nouveau Front Populaire, bon, il y aurait, semble-t-il, 300 économistes qui apportent le caution à un programme commun puissance au carré, dont on sait que c'est une absurdité économique.
Sont-ils des économistes, d'ailleurs?
Dont on sait que c'est une absurdité. Donc c'est ça qui m'étonne. Dans une telle situation, je pense qu'est-ce qui ne marche pas dans notre modèle? Qu'est-ce qui ne marche pas depuis 7 ans, depuis la mise en œuvre de la stratégie de l'offre, et qu'est-ce qui ne marche pas depuis 50 ans?
Et peut-être aussi, qu'est-ce qui fait que ces offres-là, effectivement, ces offres politiques-là, très consensuelles, ne marcheraient pas, pas au moins MAUX de la France aujourd'hui?
Donc, d'une certaine façon, ce qui ne marche pas dans la politique d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a plein d'autres choses qui ont marché, mais ce qui n'a pas marché, c'est le ruissellement. Mm-hmm. Et le ruissellement n'a pas marché, c'est ça qu'il faut adresser, tout simplement parce que la politique de l'offre, il faut la compléter de plein de dispositifs sociaux qui n'existent pas. Quelque chose qui est totalement absent des débats, c'est l'immobilier.
Mais bien sûr,
on nous parle de pouvoir d'achat.
Bien sûr.
Vous écoutez le logement, je disais. Vous écoutez les débats Biden-Trump, vous écoutez le débat au Royaume-Uni. On retrouve les mêmes items de désespérance des classes moyennes.
Pour parler, bien sûr.
Et le pouvoir d'achat est au cœur. Là, le débat Biden-Trump, ils ont parlé de l'immobilier. Pas longtemps, 2 minutes, parce que les thèmes étaient très courts, mais 2 minutes. Avez-vous entendu parler les ex ou futurs premiers ministres parler de la problématique immobilière?
J'ai entendu parler de frais de notaire.
Non. Sur le Nouveau Front Populaire, il y a bien des initiatives, mais pas véritablement. Non. Donc, quand le programme économique du Rassemblement National porte sur la baisse de la TVA pour redonner du pouvoir d'achat aux gens, ça ne résoudra pas le problème du pouvoir d'achat de la classe moyenne dite inférieure. C'est pas, dans ma bouche, c'est pas du tout un terme péjoratif. Ça veut dire qu'il y a des dépenses incompressibles qui vont demeurer incompressibles, et dans les dépenses incompressibles, il y a l'immobilier.
Bien sûr.
Et quelque chose que je ne comprends pas, c'est comment dans l'indice d'inflation de l'INSEE, la composante immobilière est à peine de 7%, alors que pour des classes moyennes inférieures, la composante immobilière, c'est-à-dire dans leur budget de dépenses, représente 15, 20, 25, 30%.
Oui, bien sûr.
Ça, c'est pas compréhensible. Donc, quand vous êtes là, sur la scène, à discuter de pouvoir d'achat, évidemment, les gens vous regardent, et si vous balancez que le pouvoir d'achat était préservé, comme c'est globalement la ligne de conduite d'une partie de la classe, c'est totalement inaudible. C'est ça, moi, qui me choque.
Samuel, maintenant que j'y pense, il y a un candidat qui a parlé d'immobilier, qui a fait un mea culpa sur la politique qui a été menée depuis 7 ans, c'est Édouard Philippe. C'est le seul d'ailleurs que j'ai entendu.
Quand vous avez 2,5 millions de ménages qui sont sur les listes d'attente pour un logement social en France, attention,
c'est une bombe. Hein.
C'est une bombe.
C'est ce qu'on va voir dimanche soir.
Oui, c'est ce qu'on va voir.
Du côté Renaissance, la seule chose que j'ai entendue, c'est qu'il faut préserver la loi Kasbarian.
Je suis pas sûr que ce soit la bonne dynamique.
Plus d'universitaires d'entreprise.
Pascal.
Plus d'universitaires d'entreprise, mais d'entreprise qui sont au contact des clients régulièrement. À proposer des solutions politiques. Il faut des experts. Là, c'est soit des universitaires en chambre, soit des universitaires, des politiques. Je critique pas leur intelligence, tout ça, c'est pas la question, mais
la question des
qui ont un problème d'ancrage, de granularité, si vous voulez.
La question des experts au gouvernement, elle a déjà été marquée, abordée. On l'a déjà
vu. Ça passe jamais.
On prend des profils.
Dès que ça monte comme
Éric Dupond-Moretti, par exemple, on est face à un profil d'expert. Un Papendia, c'était un profil d'expert. On en a eu. C'est juste que certains soient. Ont réussi à perdurer, mais ont oublié leur idéologie de base.
Mais,
et les autres, ils n'ont pas eu le temps de s'affirmer.
D'accord,
malheureusement.
Que comment a-t-on pu à ce point mésestimer cette question du logement ? Pas seulement depuis 7 ans. Hein. Pas seulement depuis 7 ans. Hein. Attendez.
Non, mais
c'est bien plus ancien que ça.
C'est un phénomène. Moi, par exemple, vous voyez, hier soir, on en discutait en aparté juste avant de rentrer sur Zoom. Hier soir, quand on regardait le débat sur France Télévisions, à un moment, Olivier Faure a parlé de la fracture sociale. Ah. Et d'un seul coup, j'ai fait un saut de cabri, parce que je rappelle la fracture sociale. Donc, c'est un dirigeant du Parti Socialiste. Hein. Donc, normalement, le Parti Socialiste, historiquement, s'occupe des problèmes de société et des problèmes notamment des classes inférieure des classes ouvrières. Je rappelle que la fracture sociale, c'était le cœur de la campagne électorale de Jacques Chirac en 94.
Emmanuel Todd à l'époque.
Et notamment avec Philippe Séguin.
Oui.
Donc, on est 30 ans plus tard, et le dirigeant du Parti Socialiste n'a aucune... Enfin, je ne sais pas une critique ad hominem, hein, mais n'a aucune proposition.
Non.
Vous voyez, et donc ça, pour moi, c'est ça qui est inquiétant. Je trouve que globalement, c'est un personnel politique qui me semble relativement sec.
Allez, Trump, Biden, on a dit qu'on en parlerait. Évidemment, on va en parler. Débat la nuit dernière à Atlanta, évidemment, qui, d'après les commentaires qui sont assez unanimes, a largement tourné à l'avantage de Donald Trump. Allez, petit extrait, 38 secondes, parce qu'ils se sont écharpés. Ils ont parlé d'économie. Oui, ils ont parlé largement d'économie. Ils ont parlé inflation, notamment. Petite prise de bec entre les deux présidents, l'actuel et l'ancien, sur la question de l'inflation. Trump, d'abord, écoutez.
L'inflation, c'est de sa faute. Quand j'ai quitté le pouvoir, en fait, la situation n'était pas du tout la même. Tout se passait bien, il n'y avait pas d'inflation. Et en fait, avec toutes ces dépenses, l'inflation a explosé.
Il n'y avait pas d'inflation quand je suis devenu président. Vous savez pourquoi ? Parce que l'économie était à l'envers. 50% de chômage a complètement décimé notre économie. Voilà pourquoi il n'y avait pas d'inflation. Il va détruire l'économie. Il se passe beaucoup de choses. L'inflation, c'est lui qui l'a provoquée à cause de sa malfaisance.
Il n'a pas brillé pendant tout le débat de Joe Biden, mais il en a sorti. J'aurais bien parlé d'économie avec vous, mais enfin, quand on voit ces images, on est obligé de parler de la forme aussi. On est obligé de parler de Joe Biden, quoi. Voilà, on peut pas ne pas en parler.
Tu sais ce que j'ai. Je ne sais pas si tu te souviens de ce que j'ai dit. Il n'ira pas au bout. Il y a plusieurs mois, il n'ira pas au bout. Je pense qu'il est en situation. D'ailleurs, il y a quelque chose d'étrange dans ce débat parce qu'habituellement, il y a trois débats.
Oui.
Trois débats.
Oui.
Et le premier débat a lieu fin septembre.
Oui.
Là, il a lieu.
Alors, il n'y en aura pas trois à l'automne. Hein.
Oui, non,
il n'y en aura que deux. Oui,
voilà,
c'est ça.
Mais justement, c'est la chronologie de ces trois débats qui est très étonnante. Et immédiatement, hier soir, les grands dirigeants du Parti démocrate ont immédiatement tiré les warnings. Or, il y aura un congrès démocrate.
En août.
En août. Moi, je continue à penser, mais ça ne peut être que de la responsabilité de Joe Biden et de son entourage. Hein, il peut pas être renversé par le Parti démocrate.
Il est dans le déni.
Mais je pense qu'il n'ira. Je continue à penser qu'il y a une probabilité. Soyons pas affirmatifs, hein, évidemment. Je pense qu'il y a une probabilité sérieuse qu'il n'aille pas au bout et que donc le Parti démocrate soit obligé de choisir un ticket nouveau, qui sera probablement un ticket un peu de figuration intelligente. Mais en tout cas, il ne peut pas aller au bout parce que on l'a vu, alors c'est des sondages à la sortie du débat, mais le mouvement est spectaculaire, c'est un mouvement de perception.
Oui.
Hein, parce qu'il demeure, malgré tout, c'est pas un vieillard sénile. Il n'était pas en forme, il a du mal à articuler, mais on sent l'animal politique quand même. Oui. On sent qu'il est capable.
Oui.
Il est capable, ça continue à mouliner.
Il en a décoché quelques-unes.
Il en a décoché des sévères.
Les premières minutes
je trouvais qu'il avait une présence physique qui n'était pas si mauvaise que ça. Il regardait régulièrement Donald Trump, alors que Donald Trump le regardait quasiment jamais.
C'est vrai.
Mais malgré tout, la perception d'ensemble, moi, me conduit à penser qu'il devrait renoncer.
Samuel,
je pense que Trump ne l'a pas beaucoup regardé parce qu'il avait du mal à suivre le fil des pensées de Biden.
Oui.
Pour le coup, sur le débat, beaucoup. Effectivement, on a été dans la forme à outrance. Alors, si je devais faire un comparatif avec ce qui se passe chez nous, au moins, il se coupe pas la parole. ce qui est déjà un peu plus
parce que le micro de celui qui ne parlait pas était éteint.
Et éteint.
Prenez-en de la graine, comme on dit.
Côté Trump, je retrouve tous les marqueurs de l'extrême droite. Le complotisme, le déni, le rejet de la responsabilité, l'amnésie de ce qu'a été son bilan aussi. On parlait de l'inflation, ben voilà, c'était dans le flash qui est arrivé juste avant. Baisse de 2,6% de l'inflation, donc j'ai envie de vous dire un point pour Biden et zéro pour Trump. Et après, sur le reste, j'ai beaucoup de mal à retenir quelque chose. J'ai retenu des saillies, des phrases, notamment sur la géopolitique, sur le conflit ukrainien. Si j'avais été là, jamais Poutine n'aurait attaqué l'Ukraine. Traiter Biden de palestinien, je ne suis pas sûr que traiter quelqu'un de palestinien soit forcément une insulte. Donc voilà, j'en retiens pas grand-chose, beaucoup de formes, de la com. Et alors là où, pour le coup, l'analyse de Xavier me plaît beaucoup, c'est est-ce que ce débat-là n'était pas un galop d'essai pour voir s'il était capable de tenir les 5 prochains mois.
Aussi parce que pour l'instant, il n'arrivait pas à inverser.
On parle d'un débat, mais une campagne, c'est des déplacements sur les États-Unis, c'est un long territoire, c'est aller serrer des mains, c'est aller parler, faire des meetings. Je le vois pas une seule seconde tenir ce rythme.
Mais bien sûr, est-ce que ce sont les démocrates qui vont réussir à faire plier? C'est une question qu'on posait tout à l'heure dans le journal.
Il peut y avoir une coalition d'anciens présidents aussi.
Est-ce que ce ne sont pas les donateurs finalement qui vont dire à un moment donné on siffle la fin de la partie? Et là, évidemment, ils s'arrêtent. C'est eux aussi qui vont...
Bon, après, il n'a pas non plus... Bien sûr, mais sur le terrain politique, oui. Sur le terrain économique, il n'a pas un bilan totalement négatif non plus.
Non, mais...
Il y a la croissance économique, quand même, qui est meilleure que celle de l'époque de Trump, légèrement meilleure. Il y a aussi les investissements, les investissements directs étrangers, la consommation. Il y a l'emploi, il y a 14 millions de créations d'emplois. Bon,
mais ça n'imprime pas.
Bon, c'est les chiffres. Le point d'achoppement, c'est plutôt légèrement un peu l'inflation, le pouvoir d'achat, où là, il y a, évidemment, mais il récupère la pandémie et toutes ces périodes où il a fallu protéger. Mais bon, je trouve que le Reduction Inflation Act a quand même eu des effets quand même pas trop mal, en tout cas d'après les quelques estimations que j'ai pu lire. Le gros travail, il est structurel aujourd'hui sur la société américaine. Il est absolument structurel. Il est dans l'individualisme exacerbé, dans les inégalités, évidemment, dans l'Obamacare à reconduire ou pas. Il est vraiment là, je pense que c'est la grosse question à venir.
Le bilan, elle est bon, mais ça n'imprime pas.
Non, voilà, moi je continue à penser que le bilan n'est pas bon. Je crois que c'est par rapport à la situation européenne ou française, j'aurais du mal à tenir. Mais prenons simplement sur la composante emploi. Le bilan n'est pas bon, tout simplement parce que le taux de participation aujourd'hui reste inférieur à la situation pré-Covid. Ça veut dire qu'il y a moins d'Américains qui participent au marché du travail que sous l'ère Trump. C'est un différentiel de quasiment 1%. Ça fait quand même 1,2, 1,3 million d'Américains qui ne participent pas au marché du travail. Quand vous regardez le détail par tranche d'âge, vous apercevez que notamment chez les femmes, dans la composante 29-55, je ne sais plus, vous avez une baisse de l'activité des femmes. Tout simplement parce que les femmes ont vu toute une série de coûts, notamment les coûts de garderie, que ce soit les garderies pour les jeunes enfants ou les coûts de nurserie pour les personnes âgées, exploser. Et donc, elles ont procédé à un arbitrage entre le salaire qu'elles avaient et les coûts de garderie. Et souvent, elles ont renoncé au marché du travail pour s'occuper de leurs enfants ou s'occuper de leurs anciens. Et ça détruit le tissu social américain. Donc, vous pouvez très bien vous présenter avec des chiffres. Là, les créations d'emplois sont spectaculaires en millions. Mais quand on regarde en pourcentage, quand on rapporte les taux de participation, le taux de participation reste inférieur à ce qu'il était pré-Covid.
Le taux de chômage est meilleur que Trump.
Oui. Mais le taux de chômage est non pertinent. Il faut prendre le taux de chômage et le taux d'activité.
C'est non inscrit.
Pour l'Américain de base de l'Arkansas ou les fameux États
la ceinture de roue.
Ce qui compte, c'est la participation. Parce que quand tu ne vas plus participer, tu ne vas plus t'inscrire à la NPE parce que tu sais que tu n'auras pas de job, tu sors du marché du travail. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends des anxiolytiques et tu attends et tu votes Trump contre Biden. C'est ça le problème. Et je pense que Biden a fait des efforts, mais ça n'a pas percolé sur un certain nombre d'États. Et c'est ça qui détruit. Et on retrouve les mêmes items dans la société britannique et on retrouve les mêmes items chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une cartélisation au niveau des territoires. Il y a des territoires qui s'en sortent bien, le Grand Paris, tout ce que tu voudras. Et puis, il y a tous les territoires qui sont en déshérent. Les fameux territoires perdus de la République. Ceux-là où il y a des taux de chômage élevés, des taux de participation faibles, où il y a des gamins qui sortent du système scolaire sans formation. Et bien ça détruit. Et il ne faut pas s'étonner de la montée
des ce qu'on appelle communément des populismes.
C'est un phénomène très français, ce qu'on appelle les NEETs. Hein,
voilà, exactement. Peu plus je rappelle que les NEETs.
Un million de gamins, dont on a
un million et demi. Un million et demi.
Hein,
c'est 13%. Oui. 13% de la tranche d'âge.
Eh bien voilà pour les États-Unis. On n'a pas le temps de parler du Royaume-Uni, affrontement entre Rishi Sunak et Keir Starmer. Ça sera jeudi prochain. Bah, ça, on aura l'occasion de disserter aussi. Autre élection qui semble acquise pour les travaillistes. A priori, allez, 3 minutes, l'extra time comme tous les soirs. Vos avis du soir, 30 secondes, coup de cœur ou coup de gueule, évidemment. Pascal, tiens, allez-y, c'est à vous.
Un coup de gueule, cette histoire de l'impact positif sur l'emploi du salaire minimum. Il y a des études qui montrent effectivement que ça a un impact positif sur l'emploi, mais uniquement si on met un salaire minimum dans des secteurs en pénurie. Alors évidemment, ça peut avoir des conséquences derrière, parce qu'il faut que tout le monde s'adapte, il faut peut-être, ça peut créer des coûts indirects sur les autres secteurs, mais il faut que le secteur soit en pénurie, sinon ça a un effet négatif. Donc agglomérer cette mesure n'a aucun sens.
Voilà pour le coup de gueule ce soir. Coup de gueule donc du coup de Pascal sur BFM Business. Xavier, c'est à vous.
Alors, nous fêtions il y a 3 semaines le 80e anniversaire du débarquement allié. Ouais. Et bien là, nous avons un débarquement de basketteurs français aux États-Unis.
Ah oui.
Il y a eu le draft de la NBA et sur les 30 premiers du draft, donc c'est des jeunes joueurs qui sont sélectionnés pour rentrer, pour être recrutés par des clubs de la NBA. On a quand même 4 joueurs français. Hein, il y a 8 joueurs étrangers sur les 30. Oui. Le reste, ce sont des Américains. Et sur les 8 joueurs étrangers, il y a 4 joueurs français. Et donc, c'est remarquable parce qu'il y a eu un joueur. Alors, je n'ai pas les noms tout à fait. Tu vois, il y a eu Victor Wembanyama l'année dernière. Et là, nous, on a Zakaria Rizacher, qui est numéro 1.
Ouais.
Et ça, c'est remarquable. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les Jeux Olympiques et puis le basket,
ça nous fait...
le basket français.
Absolument. Ça nous fait une très, très belle promo. Samuel, c'est à vous, 30 secondes. Pour finir.
Eh bien, Jules César disait pour maintenir la paix, il faut du pain et des jeux. Le pain, on le trouve difficilement. Et pour les jeux, on a un problème, c'est que la Ligue 1 n'a toujours pas de diffuseur. Il y avait l'audition de Vincent Labrune au Sénat que j'ai regardé avec autant de délectation que celle d'un autre Vincent Bolloré.
Oui.
Et finalement, il y a un peu collusion puisque Canal Plus est dans le cœur des droits. Ce que j'en retiens, c'est que finalement, la LFP, c'est l'échec de Thirier, de Boy de la Tour, de Labrune. C'est qu'il y a beaucoup de clubs qui risquent de passer à l'as. Je pense au Havre, je pense à Montpellier et quelques autres.
Oui.
Et puis surtout, ce chiffre. Dans le deal CVC, Vincent Labrune a pris 3 millions d'euros.
Oui.
Le Havre, 1,5 million d'euros. On en est là. Pas de diffuseur. Dans une année olympique qui est censée faire rayonner le sport. Et on aura bien besoin de se changer les idées au mois d'août.
Je sais pas, vous seriez prêt à la prendre, la chaîne de la Ligue à 25-30 euros par mois ou pas?
Non, je vais pas vous mentir. Je vais faire comme beaucoup de Français. Je vais rejoindre un canal Telegram.
Et voilà. Voilà comment ça se passe. Voilà. Des traces du foot français. Ça aussi, on en reparlera. Ça sera un gros sujet après les Jeux Olympiques, évidemment. La diffusion ou pas de la Ligue 1 de football. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir, c'est terminé. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital, Pascal Delima, chef économiste chez CGI Business Consulting et Samuel Botton, expert en communication. Merci messieurs, à très vite avec plaisir. Dans un instant, 19h, le journal et puis les pionniers chez Fred Mazzella. On se retrouve lundi, bien sûr, 18h en direct pour Nouvelles Aventures. Bonne soirée, bon week-end.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.